On est le dimanche 9 novembre, vous êtes sur RCV 99 FM, il est 14h et vous êtes un peu plus de 14h avec la chanson du générique et vous êtes avec Jean Rage, salut Zab.
Salut.
Et moi c'est Anaëlle, toujours. Au programme de cette émission, donc on va revenir, on fait une deuxième émission sur lutte anticarcérale et féminisme. On va plutôt revenir aujourd'hui sur les luttes anticarcérales.
Peut-être te dire ce dont on a parlé vite fait
il y a deux semaines. Ouais, alors il y a deux semaines, on est plutôt revenu sur ce qu'était le pénal et le carcéral et sur les conditions d'enfermement, d'incarcération et de prise en charge du pénal des femmes et des prises en charge différentielles entre hommes et femmes dans le système pénal et carcéral. Et donc aujourd'hui, on va plutôt revenir sur les luttes abolitionnistes et anticarcérales et sur les convergences, divergences idéologiques et historiques avec le féminisme. Donc on va vous passer à nouveau des extraits issus d'une conversation, d'une discussion dans le cadre du festival EBIM, Festival Féministe, donc d'une discussion qui a été menée par Gwenola Ricordo, qui est enseignante-chercheure à l'Université de Lille en sociologie et qui est militante anticarcérale et féministe. Donc on va vous passer trois extraits de cette discussion qui a eu lieu au CCL. Et donc le premier extrait sera sur les contradictions apparentes entre les luttes abolitionnistes et le féminisme. On va ensuite revenir sur les valeurs des luttes anticarcérales. On détaillera ça tout à l'heure avec un deuxième extrait sur la surreprésentation des hommes et les manières d'abolir la prison. Et enfin, on essaiera de voir comment on peut réconcilier les deux luttes et quelles alternatives peuvent être proposées au système pénal avec un troisième extrait sur les manières d'abolir le pénal. Voilà.
Bon bah tout de suite, alors on écoute Gwenola Ricordo.
À tout de suite.
Si maintenant on passe au lien entre féminisme et abolitionnisme, je dirais que la France est un cas un petit peu particulier si on regarde dans le monde occidental et notamment par rapport au monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, le féminisme et l'abolitionnisme sont, on pourrait dire, c'est deux courants extrêmement proches et que l'abolitionnisme doit beaucoup au féminisme. En France, on est plutôt dans une logique voilà, de contradictions apparentes, avec d'un côté voilà, les abolitionnistes, enfin, ou plutôt les militants anticarcéraux, qui vont parfois avoir des raisonnements extrêmement simplistes et finalement prôner l'impunité pour tous, et de l'autre côté, du côté des luttes féministes, la revendication de mettre fin à des formes d'impunité qui très souvent vont aller vers un appel au pénal, en gros. Donc, contradiction apparente. Or, là, je vais je vais faire ma vieille, mais bon, ce sera qu'une fois de plus. Mais j'étais sur une émission de radio, Radio Libertaire, il y a pas mal d'années. L'émission anticarcérale, elle arrivait juste après l'émission des femmes de Fédération Anarchiste. Et elle terminait souvent en disant, oui, et puis alors les violeurs en prison, et puis les clientes prostituées en tôle, etc. Puis nous, il y avait notre générique, tada, tout le monde dehors. Bon. Et c'était vraiment, enfin, je caricature à peine, mais c'est parfois un peu ce qu'on peut ressentir quand on est à la fois abolitionniste et féministe, du coup, de pas être bien ni dans, enfin, des formes de contradictions dans l'un et l'autre milieu. J'ai été plutôt tout à l'heure optimiste en disant, bon, le féminisme et abolitionnisme devraient marcher main dans la main. Bon. En même temps, ce qu'on remarque dans les milieux abolitionnistes, tout à l'heure je disais que c'était un milieu très masculin, parce que je pense que par expérience, les femmes qui y sont vont souvent sentir une contradiction entre, d'un côté, il faut abolir la prison, abolir le pénal. Et en même temps, dès qu'on est confronté à des situations problématiques, ce n'est pas des milieux qui brillent par leur capacité à les régler sans avoir affaire au pénal. Très concrètement, une de mes premiers désaccords, c'était que c'est un tabou dans les milieux abolitionnistes de dire pourquoi les gens sont en prison ou pourquoi ils ont fait de la prison. Et je trouve ça assez problématique parce que je pense au contraire que c'est extrêmement intéressant parce que quand on parle de réparation, justement, sans passer par le pénal, on devrait savoir qu'est-ce que les gens ils sont en train de réparer, sur quelle base. Alors, par exemple, en ce moment, on sévit dans Lyon et ses environs, quelqu'un qui a fait de la prison, qui parle sans arrêt de réparation, il dit jamais pourquoi il allait en prison, bon, il a essayé de tuer sa femme et son enfant, et très récemment, je dit que c'était quand même problématique. Moi, j'étais tout à fait contente qu'il répare ce qu'il ait fait, mais du coup, à qui il rendait compte? Alors voilà, là, dans les milieux abolitionnistes, on a dit, ça se fait pas. Bon.
C'était Gwenola Ricordo que vous avez pu écouter. Je vous passe les détails, on en a parlé 30 fois déjà. Du coup, voilà, donc le premier gros désaccord entre féministes et militants anticarcéraux ou abolitionniste. Annelle vous en parlera plus en détail tout de suite en faisant bien la différence. C'est finalement le fait que les féministes ont eu recours au système carcéral et pénal dans des mouvements qui sont progressistes au départ. C'était des mouvements qui ont, enfin, ces luttes ont aidé à reconnaître certaines formes de violence qui pouvaient pas rester complètement impunies. Et la question se pose aussi de savoir comment on aurait pu prévenir ces violences-là qui sont spécifiques, qui sont des violences de genre, donc des violences perpétuées à l'encontre des femmes parce qu'elles sont des femmes, par exemple viol, agressions, autres agressions sexuelles et sexistes. Et du coup, y a tout de suite un conflit d'intérêts avec la lutte anticarcérale, puisque la lutte anticarcérale revendique une prise en charge par le pénal des déviances moindres, alors que les féministes ont eu recours à ce même système. Donc forcément, il y a un conflit d'intérêts. Je te laisse la parole, Anaëlle.
Juste avant de commencer, donc sur cette prise en charge carcérale et pénale par les féministes, sur la distinction entre lutte anticarcérale et lutte abolitionniste. Donc les militants anticarcéraux militent essentiellement contre la prison et le système carcéral, alors que les abolitionnistes luttent contre l'ensemble du système pénal, donc qui n'est pas forcément que la prison, qui concerne qui concerne tout ce qui est le contrôle de la déviance et le contrôle des situations problématiques. et donc pas forcément la délinquance là qui est prise en charge par la prison. Donc on peut mettre dans le pénal la surveillance électronique, les peines avec sursis, les travaux d'intérêt généraux, etc. Et donc le lien avec le féminisme et l'utilisation du système pénal et carcéral par les féministes. Alors sur le site d'Oser le féminisme, il y a un article intéressant sur les violences faites aux femmes. Et donc qui revient sur la reconnaissance pénale de certains crimes. De crimes genrés. Et donc il prend l'exemple du viol. En 1976, le mouvement de libération des femmes et SOS Femmes Alternatives publie un manifeste dans Libération contre le viol. Et en 1980, suite à ces manifestations et ces prises de parole publiques, une nouvelle législation sur le viol est votée. Et donc il y a en parallèle de cette loi votée en 1980, il y a aussi des mises en place d'aide aux victimes, de prévention, de formation des personnels de police et de gendarmerie, etc. Donc il y a quand même eu c'est un exemple concret de l'utilisation du système carcéral et pénal par les féministes dans le cas du viol.
Voilà, et donc il faut savoir que avant ces années 80-là, les agressions sexuelles, harcèlement, viol et compagnie, c'était pas des violences qui étaient reconnues, c'était pas des déviances, c'était pas des violences qui étaient... Elles étaient prises en charge par le système pénal parfois, mais pas toujours. Parce que si on n'a pas la conscience que ce qu'on est en train de vivre, c'est une violence, forcément, on ne peut pas avoir recours au système pénal en disant bah, on m'a fait violence. Donc c'est quand même une grande, grande avancée. Avant ça, ça voulait dire que on pouvait être harcelé et agressé impunément.
Et en lien avec cette lutte contre les violences faites aux femmes, alors c'est beaucoup plus récent. En 2009, donc c'était Nicolas Sarkozy, président de la République, et François Fillon, Premier ministre. François Fillon lance en 2009 donc une campagne d'intérêt général. Il place la lutte contre les violences faites aux femmes, campagne d'intérêt général, en 2009. Donc il y a des réunions et des discussions d'un collectif de 26 associations mobilisées autour des violences faites aux femmes. Ces réunions, ces discussions durent pendant pas mal de temps, parce qu'en fait elles commencent en 2008. Donc avant la mise en place de la campagne, et elles élaborent une charte, elles reprennent certaines lois, elles en modifient certaines, elles modifient certains alinéas, etc. Et elles font des demandes aussi de modifications sur les lois qui n'ont pas été modifiées. Donc on voit qu'encore aujourd'hui, les questions autour des violences faites aux femmes ne remettent pas en cause, ou remettent très peu en cause, l'utilisation du système carcéral et pénal par les féministes. En tout cas, par les principales associations féministes de lutte contre les violences. Et elles demandent aussi, elles ont une volonté aussi, ces associations-là, de renforcer les politiques publiques et les moyens dédiés pour la prévention et l'accompagnement des femmes, ainsi que le soutien aux associations engagées dans la lutte contre ces violences, en particulier celles qui accompagnent des femmes sur l'ensemble des territoires français. Ça, c'est une citation qu'on peut trouver sur le site des violences faites aux femmes, donc www.violencesfaitesauxfemmes, tout collé et tout au pluriel.com. Donc voilà, il n'y a pas qu'une utilisation du système pénal et carcéral, mais il n'y a pas du tout de remise en cause par les féministes de cette utilisation du système carcéral et pénal.
Après, la question, c'est de savoir comment on peut prévenir de la répétition de ces violences sans avoir recours au système carcéral. C'est une question qu'on pose maintenant, à laquelle on essaiera peut-être de répondre ou peut-être pas. En tout cas, il y a un autre fait qui est quand même assez intéressant. C'est tout simplement le fait que les viols qui font l'objet d'une plainte, en réalité, sont très peu nombreux. Ouais. Ça équivaut à 5 ou 10%, un truc comme ça, du nombre de viols et d'agressions sexuelles qui ont lieu en France, qui existent. Donc, ça pose aussi la question de finalement... C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est le recours au système pénal, il est là, il doit être là. Ça permet aussi de créer cette figure criminelle de l'agresseur. Mais dans la mesure où une très faible partie de ces violences font l'objet d'une plainte et du coup sont vraiment prises en charge par le pénal, quel est finalement l'intérêt du pénal dans ce cas-là?
Et je pense que c'est aussi une revendication des militants anticarcéraux, peut-être aussi. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais sans parler des violences sexuelles, le nombre de plaintes déposées par les femmes qui sont battues par leurs conjoints, par exemple, est très peu, enfin, sont très peu nombreuses aussi. Toute une question de peur et d'emprise psychologique qui joue énormément et d'inertie aussi. Il y a pas mal de personnes qui portent plainte et qui parlent de l'inertie, de la justice et des difficultés de prise en charge par le système pénal et carcéral de leur affaire qui durent des années, qui sont psychologiquement hyper éprouvantes, etc. Donc il y a vraiment une ambivalence entre l'utilisation factuelle des lois juridiques posées sur les agressions sexuelles ou non.
Du coup, on remet pas non plus en question cette avancée-là qui est quand même importante, mais est-ce que ça remplit le rôle qu'on voudrait que ça remplisse, quoi? Et j'ai pas l'impression que ça ait autant d'impact qu'on le souhaiterait.
Mais en tout cas, bon là c'est plus, je suis pas sûre que ce soit énormément du ressort des féministes, elles ont fait avancer les lois, etc. Mais c'est vrai que la prise en charge ensuite juridique et pénale de ces lois et de ces avancées féministes est pas optimale enfin voilà, il y a quand même des gros problèmes quoi,
Et puis
prise en charge.
ça relance le débat de finalement la prison c'est comment dire c'est une réponse en réaction à une violence qui a déjà été perpétrée. Là, en l'occurrence, comme on n'a pas tant que ça recours au pénal, est-ce que ça a vraiment son utilité? Est-ce que ça répare vraiment les torts qui ont été faits? Finalement, est-ce que pour ce genre de violence, ce qui serait à faire, ce serait pas... Bon, c'est pas une question en fait, c'est sûr. C'est essayer de travailler en amont de ces violences, essayer de faire en sorte que ces violences n'aient pas lieu. Et la question à poser, c'est comment le faire, tout simplement en travaillant sur les normes, sur les représentations,
les représentations genrées,
ouais,
sexistes,
voilà, exactement.
Ouais.
Bon, tout de suite, on fait une petite pause, on vous met une chanson, Depeche Mode, World in My Eyes, de l'album. Attention, je viens tout juste de m'en rendre compte, mais c'est absolument pas fait exprès. L'album s'intitule Violator, donc voilà, violateur quoi. Bref, violeur. Sorti en 1990. À tout de suite.
À tout de suite. Voilà, donc vous êtes de retour sur RCV 99 FM avec Jean Rage. Il est 2h30 à peu près et on parle toujours des luttes anticarcérales et le lien avec le féminisme. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'insuffisance, voire l'inefficacité du système pénal et carcéral pour prendre en charge les violences faites aux femmes. Il y a eu une déclaration, enfin une dépêche de l'agence France Presse parue le 28 octobre dans Libération, qui fait mention d'une femme âgée de 65 ans qui s'appelle Jacqueline Sauvage, qui a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari de 3 balles dans le dos. Parce
Les raisons du meurtre.
que, ouais, les raisons du meurtre sont que, en fait, cet homme perpétrait des sévices corporels et sexuels sur sa femme et ses trois enfants, deux filles et un fils, pardon, depuis de très 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 nombreuses années. Et ces sévices continuaient alors même que les enfants étaient adultes. Et en fait, ce crime survient au lendemain du suicide du fils de ce couple, traumatisé par les sévices perpétrés par son père. Et donc, la prévenue, lors de son procès, explique qu'elle n'a pas déposé plainte plus tôt parce qu'elle avait très peur, par crainte. Donc, elle était sous emprise psychologique. La famille au complet était sous emprise psychologique de cet homme violent et était terrorisée. N'a pas osé faire appel au système juridique pour l'aider. Donc, ça, c'est vraiment une illustration concrète du fait que des femmes ne se sentent pas prise en charge, ne sont pas rassurées par le système pénal et carcéral français, et que donc du coup elles se font justice elles-mêmes parce qu'à un moment elles n'en peuvent plus.
Bon, et c'est aussi le fait que ce soit son mari, quoi.
Là, oui, que ce soit son mari, mais du coup elles passent vraiment dans le système pénal comme il est fait aujourd'hui, le système juridique, elles passent de victimes de violence à criminelles. Là, qui en plus sera certainement jugée plus durement parce que c'est un homicide volontaire. Sur son conjoint, même si c'était, même si on peut voir des circonstances atténuantes, etc. Voilà, elle passe de victime à criminelle plus plus. Donc il y a une belle ambivalence de cette prise en charge des femmes par le système pénal et carcéral.
Donc voilà, ça pose la question de la pertinence, on va dire, des possibilités de prise en charge du pénal à ce niveau-là. Du coup, pourquoi être militant anticarcéral? On peut se poser la question.
Alors, par rapport aux valeurs, là, je me fonde sur le site de Genepi. Donc, le site, c'est www.genepi.fr. Et Genepi, c'est une association qui est née en 1976 et sont des initiales pour Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et donc, en fait, sur ce site, en gros, ce qu'explique l'association, c'est que pour elle, les valeurs anticarcérales, c'est de militer contre le monde carcéral, c'est se battre pour une société basée sur d'autres valeurs que l'exclusion. Donc là, c'est une citation qu'on trouve sur l'article du site. Et en fait, l'article fait le lien entre les luttes anticarcérales et les luttes sociales, au sens où d'autres mécanismes que la prison privent les individus de liberté dans le monde social. Et donc, en fait, ils reviennent sur quatre problématiques majeures qui mettent en lien les luttes sociales et les luttes anticarcérales. Donc, par exemple, la lutte contre le capitalisme. Donc le capitalisme, c'est une affirmation des droits des individus. Enfin, la lutte contre le capitalisme replace l'affirmation des droits des individus face aux logiques de rentabilité économique. Donc dans le système capitaliste, les plus démunis sont les plus oppressés. Et on retrouve cette logique en prison où quand on n'a pas d'argent, quand on ne peut pas travailler pour gagner de l'argent en prison, on est souvent marginalisé, exclu, et on est le plus opprimé en prison.
Les oppressions et les tensions sociales qui existent dans la société hors prison
Ouais.
Se reproduisent et s'accentuent entre les murs de...
De la prison.
Voilà,
Ouais, c'est
en
tout à
gros.
fait ça. Donc là, c'est par rapport au capitalisme et par rapport à la logique riche-pauvre. Il y a aussi la lutte contre le racisme. Alors, on en a parlé dans l'émission précédente de la diminution ou de la difficulté des droits pour les étrangers d'avoir accès aux mêmes droits que les détenus français. Donc, la lutte contre le racisme, c'est une lutte également très importante dans l'affirmation d'une liberté par des personnes étrangères ou d'origines étrangères. Et c'est une lutte qui est très très parlante en prison où nombreux étrangers sont incarcérés. Alors, Preuve en est avec la révolte de février 2014, donc là c'est une illustration, au centre de rétention administration. Ouais, c'est ça.
Centre de rétention administratif.
Ouais, pardon. CRA. Enfin bref, donc là c'est une révolte qui a eu lieu à Vincennes. Et en gros, ces centres de détention sont des centres de détention pour étrangers, donc c'est spécifique. Et on retrouve en plus là, dans la lutte contre le racisme, alors là c'est moi qui fais le lien et pas l'article, on peut retrouver une logique intersectionnelle avec cette lutte contre le racisme si on revient à l'article du Monde diplomatique paru en septembre 2003 dont j'ai parlé il y a 15 jours, qui est consacré aux femmes en prison. On retrouve cette inégalité de race, enfin de personnes racialisées et de lutte contre le sexisme sur lequel je reviendrai après. Parce qu'en fait, il est indiqué dans cet article que 68% des femmes détenues de Fleury-Mérogis, qui est une des plus grandes maisons centrales, où il existe un quartier dédié aux femmes, sont étrangères et où elles sont soumises aussi à des discriminations de par leur
Parce qu'elles sont
caractère.
racialisées ou parce
Voilà,
qu'elles
c'est
sont
ça.
étrangères quand elles sont pas...
Ouais, c'est ça. Donc on peut retrouver une lutte intersectionnelle aussi dans la prison. La troisième problématique.
Non, dans la lutte anticarcérale.
Oui, pardon. La troisième lutte, c'est la lutte contre le sexisme. Donc bon, ça, je vais pas m'étendre dessus parce qu'on en a parlé il y a 15 jours. Donc on a vu que le sexe était une variable très discriminante pour les femmes en prison, le sexe et le genre. Et enfin, la quatrième lutte, c'est la lutte pour la reconnaissance des droits homosexuels. Parce que l'homosexualité, dans la société d'une manière générale, est toujours perçue comme une déviance, une pratique déviante, alors pas une pratique délinquante. Ça, bon, on reviendra dessus tout à l'heure, la différence entre déviance et délinquance, en tout cas pour l'homosexualité. Et cette pratique vue comme déviante dans la société est encore, enfin, est
Et d'autant
exacerbée.
plus stigmatisé.
Voilà, c'est ça. En prison et en particulier pour les hommes, en fait, plus que pour les femmes.
Donc ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est que moi je comprenais pas en quoi la lutte anticarcérale, ça pouvait être une lutte aussi pour les droits des personnes LGBTI. Et du coup, la question que je me posais, c'était, voilà, c'était ça, je comprenais pas en fait le lien que ça pouvait avoir. Là, ce que disait Annaëlle, c'est que ce qui se passait en dehors de la prison, ça s'exacerbait, les luttes sociales et compagnie, les discriminations, ça s'exacerbait dans le milieu carcéral.
Carcéral.
Et en fait, en lui en parlant, je me suis rendu compte qu'en fait, pour revenir sur le mot de déviance, c'est, bon, déviance, c'est un comportement qui ne correspond pas à la norme, mais du coup, il faut aussi se poser la question de c'est quoi la norme? Et par exemple, l'homosexualité, elle a été dépénalisée seulement en 1982. Donc maintenant, comme disait Annaëlle, ça reste considéré comme une déviance
Ouais, c'est
sociale,
ça.
culturelle, sexuelle et compagnie par une certaine partie de la population. Mais du coup, avant 82, c'était une déviance qui était susceptible d'être prise en charge par le système carcéral. Quand on avait des pratiques homosexuelles, on était un délinquant en gros. Et du coup, c'est quoi finalement cette norme? C'est quoi la, enfin, quelle légitimité a le système pénal de prendre en charge telle ou telle personne, d'incarcérer telle ou telle personne, comment on décide de ce qui est déviant ou ce qui n'est pas déviant, puisqu'on parlait de normes, en fait, bah, finalement, bon, c'est quoi la norme par excellence, en France en tout cas? C'est être un homme, être blanc, avoir des sous,
Être
être
hétérosexuel,
hétérosexuel,
père de
et
famille, c'est mieux.
j'ai dit blanc.
Oui.
Et voilà, du coup c'est ça en fait. Et tout ce qui va s'éloigner de cette norme ultra dominante, en gros, ça va être potentiellement considéré comme des déviances qui peuvent être prises en charge par le système pénal. Alors bien évidemment, heureusement, le fait d'être une personne racialisée, ça veut pas dire que c'est pas une déviance en soi, c'est pas considéré comme une déviance en soi, mais on peut pas. Faut pas se leurrer, on voit bien que quand tu te balades dans la rue et que tu es une personne racialisée, tu vas te faire plus facilement arrêter. Il y a un délit de faciès qui est
Ouais,
évident.
contrôlé par la police.
Voilà, par exemple. Et du coup, bah, c'est là l'intérêt peut-être quand on est féministe d'adhérer aux valeurs enfin, des luttes anticarcérales, c'est aussi de se dire la lutte anticarcérale, elle remet en question la norme à partir de laquelle on définit la déviance. Et c'est là où peut-être on peut retrouver, on peut faire le pont entre féminisme et lutte anticarcérale, puisque Bah c'est les féminismes font également ce travail de remise en question de normes, quoi.
Ouais, et moi ce qui m'intéressait dans cet article par rapport à la lutte anticarcérale proprement dite, c'est justement que là où se situe en gros la centralité de la remise en question de la prison, c'est qu'en fait en disant, bah voilà, en revenant sur des questions sociales, en remettant en question la norme comme tu disais Zab, et en revenant, en luttant contre des discriminations sociales, on lutte en même temps de fait sur des discriminations qui ont lieu et qui sont exacerbées en prison. Et donc en fait, petit à petit, ça remet en cause aussi l'utilité de la prison, parce que si finalement on arrive à diminuer les discriminations et à faire varier la norme et à amener à un changement social d'une manière générale, les conditions, en tout cas les conditions de détention risquent d'être améliorées en prison, parce que du coup la norme aura changé et les discriminations, enfin ces discriminations-là n'auront plus cours.
Ou seront amoindries.
Et donc en tirant un peu cette analyse-là, on peut se dire aussi qu'à un moment, en changeant globalement, alors là c'est plutôt proche des luttes abolitionnistes plus que des luttes anticarcérales, mais en changeant globalement le fonctionnement de la société, on peut en arriver à une inefficacité croissante, voire totale, du système carcéral, en tout cas en France.
Bon, on reviendra plus précisément sur cette lutte anticarcérale et enfin sur cette différence déjà lutte anticarcérale et abolitionniste et sur enfin pratiquement en pratique à quoi ça peut mener et comment le faire quoi. Tout de suite on vous repasse un autre extrait où on entendra Gwenola Ricordo et on reprend la parole juste après. À tout de suite.
Mon expérience, et vous avez le droit de m'arrêter si vous avez vécu des expériences super super différentes, mais bon, je suis quand même, je pense avoir fait un peu le tour des mouvances abolitionnistes en France. Ce qu'on voit dans le milieu abolitionniste, en tout cas en France, c'est que c'est un milieu extrêmement masculin. Il y a une certaine constance hein, que dans les milieux militants, il y a souvent une surreprésentation des hommes. Mais bon, il y a cette surreprésentation des hommes et on parle surtout des hommes en prison avec du coup pas du tout d'intérêt pour toutes les femmes qui permettent en fait que les hommes fassent leur peine. Donc tout le côté de soutien, mais y compris de solidarité politique. Alors ça, c'est un de mes grands sujets d'énervement, c'est que dans les milieux militants, quand il y a quelqu'un qui va en prison, typiquement, les premières personnes qui vont se mobiliser sur des choses extrêmement concrètes, comme apporter du linge, envoyer des timbres, écrire les premières lettres, etc., etc., en général, c'est des femmes. Par contre, là où on va trouver des hommes, c'est à l'écriture du communiqué. Ou pour aller dire, ouais, ben alors on va aller faire un tag en solidarité avec notre pote. Alors c'est pour ça, après des années d'énervement, où je me retrouvais à Paris à être appelée, où on me disait, Gwen, il y a machin, il est tombé en prison, nanana, alors bon, avec des copines, on faisait le sac de linge, etc. Au bout de quelques années, j'en ai marre, et donc j'ai fait un guide pour les proches de détenus, pour dire aux gars, eh ben, c'est facile de faire un sac de linge, il n'y a pas besoin d'avoir le gène du sac de linge ou du carnet de timbre, etc. Voilà. Alors, en fait, pour moi, ce n'est pas du tout anecdotique, c'est parce que aussi dans les milieux anticarcéraux, si on pose la question comment on lutte, qu'est-ce qu'on fait concrètement, dans le milieu abolitionniste français, enfin plutôt mouvance anticarcérale, on peut dire que, la voie qui est choisie, c'est une voie plutôt insurrectionnaliste. En gros, on kiffe les émeutes de prison. Et donc, on kiffe, en général, des gars qui mettent le feu à la prison. Je grossis un peu le trait, mais il y a ce romantisme de la figure du mutin. Cette façon de penser comment on va détruire les prisons, etc., fait que qui qui devient le sujet de la lutte abolitionniste, bah, des hommes, et des hommes en particulier, qui sont donc dans cette capacité à foutre le bordel, foutre le feu, etc. Ça a pour conséquence à la fois d'invisibiliser les femmes alors, qui vont au parloir, qui sortent des lettres de façon clandestine pour qu'après il y ait des communiqués qui soient faits, la déclaration du camarade de Jojo depuis le fin fond des cellules. Mais bon, voilà, on ne dit jamais communiqué sorti grâce à une femme qui a pris le risque de se voir sauter son parloir et d'avoir éventuellement d'autres emmerdes, parce que souvent, non seulement il y a le fait d'aller chercher le courrier, mais pourquoi pas d'apporter du shit, etc. Donc il y a une invisibilité du travail politique qui est fait par les femmes. Il y a une invisibilité des femmes qui sont en prison et des façons aussi de lutter dans les prisons de femmes. Parce que dans les prisons de femmes, il n'y a pas les mêmes rapports que dans les prisons d'hommes. Alors il y a aussi des mutineries, mais il y a aussi beaucoup de formes de résistance qui, lorsqu'on en parle dans le milieu anticarcéral, ça va être un refus de plateau. Donc par exemple, un refus de manger les plateaux repas distribués par l'administration pénitentiaire. Vous voyez, comparé au gars qui va avoir pris en otage un maton en disant « oui, je vais l'égorger, ce porc », vous voyez, il y a Donc il y a une invisibilité des formes de résistance et donc de lutte du côté des femmes.
Voilà, on est de retour, toujours sur RCV 99FM. Vous êtes avec Jean Rage, voilà. Et on parle aujourd'hui de lutte anticarcérale et féminisme. Alors, cet extrait, il revient donc sur cette surreprésentation des hommes dans les luttes anticarcérales. Et du coup, sur la figure du mutin aussi, qui est une figure masculine, sur les actions qui sont menées en prison pour remettre en question ce système-là. Et donc, toutes ces choses invisibilisent... invisibilisent l'action des femmes en prison, leur contribution à cette lutte anticarcérale, et ne laisse pas forcément également la place à des femmes dans la lutte anticarcérale. C'est de nouveau quelque chose qui contredit un peu la lutte féministe et qui fait qu'elles sont pas en opposition, mais elles sont difficilement conjugables ensemble. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment réconcilier ces deux luttes, alors qu'il y a tant de choses qui les séparent. Donc à la fois, pour revenir sur toutes ces contradictions, à la fois une surreprésentation des hommes dans les luttes, qui ne permet pas... j'arrive pas à parler.
Qui ne permet pas aux femmes d'être visibles dans la lutte.
Dans la lutte, voilà, exactement. Le fait que les féministes historiquement ont eu recours au système carcéral, et heureusement d'ailleurs, pour rendre visibles les violences de genre, par exemple, tout ça, c'est des choses qui rendent... j'arrive pas à parler.
Ce sont des divergences qui sont relativement importantes entre les luttes féministes et anticarcérales.
Merci Annaëlle.
Et qui peuvent rendre compliqué l'idée d'une lutte commune entre ces deux mouvements.
Voilà, donc on va vous mettre une petite chanson, Nicki and the Dove, Mother Protect,
un remix que Zab retrouve ses idées.
Voilà, exactement, un remix de Gold Room, donc c'est un DJ, un Gold Room, et puis on se voit dans quelques minutes, à tout de suite.
Tout de suite.
Vous êtes de retour avec nous, Jean Rage, sur RCV 99 FM. Donc la question qu'on posait juste avant cette
pause coupure musicale.
Voilà, coupure musicale, c'était comment réconcilier ces deux luttes, donc lutte anticarcérale et féministe, au vu de toutes ces divergences idéologiques et pratiques. Voilà. Donc déjà, il y a ce truc de cette question de remise en question de la norme qui est intéressante et qui, je pense, permet vraiment de faire le pont entre féminisme et lutte anticarcérale. Donc pour me répéter un tout petit peu, elles ont en commun ce truc de remettre en question la norme et de questionner la légitimité de comment ont été définies les déviances, en gros.
Ouais.
Que ce soit des déviances dans le système carcéral qui sont prises en charge par le pénal, ou dans le féminisme, que ce soit des déviances qui soient des déviances sociales, culturelles et compagnie. Donc par exemple, être lesbienne ou être une butch ou ce genre de truc, ou être trans, tu vois, c'est une déviance, c'est considéré comme des déviances par une bonne partie de la société, vis-à-vis d'une norme qui est l'hétérosexualité, là en l'occurrence parce qu'on parle de sexualité.
Le cisgenre.
Et... Oui, voilà, exactement. Et de questions de genre. Et du coup, ces deux luttes ont en commun la remise en question de la norme. Ensuite, je pense qu'avoir conscience des différences de prise en charge, par exemple, comme on parlait dans la première émission, de ces différences d'expression du contrôle social sur les femmes et les hommes, de la différence de coût social de la prison, etc. Tout ce qu'on a évoqué dans la première émission. Avoir conscience de ça et avoir conscience des divergences qu'il y a entre féminisme et lutte anticarcérale et des lacunes de l'un, avoir conscience de ces lacunes, c'est déjà quelque chose.
Enfin, les lacunes dans la lutte anticarcérale, c'est la très faible représentation des femmes aussi. Hein.
Oui, également, également.
Vas-y, je te laisse continuer.
Du coup, une fois qu'on est conscient et consciente de ces choses-là, on peut mettre en application une politique anticarcérale, ou en tout cas, essayer d'avoir le moins recours au système pénal, avoir recours à autre chose, sans pour autant indirectement faire l'apologie de l'impunité, comme pouvait dire Gwenola Ricordo dans l'extrait qu'on a passé juste avant, quoi.
Bah après, sur cette question-là aussi, tu parlais des lacunes tout à l'heure. Je pense qu'en plus, dans les faits, il y a vraiment un travail qui peut être fait des deux côtés, parce que les féministes pourraient mener des enquêtes, etc., sur les conditions d'incarcération des femmes et mettre en exergue et rendre visible leurs conditions de détention, le non-respect de certains de leurs droits parce qu'il y a une non-mixité stricte, etc. Et en mettant en avant ces mauvaises conditions de détention des femmes par les féministes, ça pourrait rejoindre une lutte anticarcérale globale qui montre en fait que déjà les droits des prisonniers ne sont pas forcément respectés, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux luttes si vraiment elles œuvraient ensemble avec leurs propres objectifs, sans forcément prendre les objectifs des autres, mais de fait ça se retrouverait.
Puis il y a aussi le manque de pertinence parfois de l'enfermement, tout simplement. Ouais. Je me souviens dans un des extraits qu'on vous a diffusé, Gwenola posait la question aussi de savoir qui ça protège, qu'est-ce que ça guérit, à quoi sert finalement cette prise en charge par le pénal. Est-ce que finalement ça répare les torts quand quelqu'un qui a commis un délit qui implique une personne tierce, que cette personne soit enfermée, est-ce que ça a réellement est-ce que ça répare les torts qui ont été faits? J'en suis pas sûre. Ouais. Du coup, il y a toutes ces petites choses-là qui permettent de peut-être se retrouver sur les... Enfin, de conjuguer les deux luttes ensemble. Il y a des alternatives aussi au système pénal. Alors, par exemple, au Canada, contre les agressions, il y a des cercles de responsabilité qui se sont créés. Donc, par exemple, il y a la situation problématique qui est une agression qui a été opérée. Un groupe de responsabilités qui sont en gros des personnes qui se créent et toutes les personnes qui font partie de ce groupe sont responsables pas de l'agression mais un peu, enfin comment dire, elles sont responsables de l'agression non pas parce qu'elles l'ont fait mais elles sont responsables de l'agression pour que cette agression et de l'agresseur pour que cette agression ne se reproduise pas un jour. Et comme ça, elles n'ont pas besoin. Enfin, c'est les personnes qui font partie de ce cercle n'ont pas besoin d'avoir recours au pénal. Et du coup, le but, c'est aussi de prendre en charge l'agresseur, de lui faire comprendre et d'essayer de lui faire reconnaître le tort que l'agresseur a pu faire. Et voilà, c'est une des possibilités, c'est une des alternatives qui peut-être est pas forcément plus efficace, mais dans la mesure où enfermer quelqu'un qui a fait du tort à quelqu'un, ça va pas forcément régler les torts.
Ça revient sur le fait que...
Et ça permet, ça permet aussi, là en l'occurrence du coup c'est quelque chose qui a été dit pendant la discussion qui a eu lieu au CCL, ça permet de pas reproduire des discriminations. Par exemple, là on parlait d'un milieu LGBTI, si l'agression a lieu dans un milieu LGBTI qui sont déjà des personnes qui sont marginalisées par la société, comment ne pas reproduire cette marginalisation en excluant une personne ou en l'envoyant dans le système carcéral qui va d'autant plus marginaliser et violenter la personne qui au départ est agresseur mais
qui est aussi victime d'une certaine manière
qui est déjà victime d'une norme sociale et qu'il serait d'autant plus dans une prison.
Ouais, et c'est ce que je voulais dire, c'est parfait. pas avec les mêmes mots tout à fait, mais ça revient, cette prise en charge collective revient sur le fait que de toute façon la société et la manière avec laquelle elle est organisée joue un rôle et est totalement responsable des déviances qui sont des déviances qui lui sont propres, parce qu'une société sans déviance, ça n'existe pas, de toute façon parce qu'il y a une norme, mais qu'en établissant ces normes, elle établit aussi
les caractères déviants et qu'elle établit d'une certaine manière la criminalité en laissant de côté des personnes qui sont non prises en charge par
Ouais.
cette société. Ça ressent sur la responsabilité de la société en général
Civil,
sur
ouais.
la criminalisation.
Bon, tout de suite, l'émission est déjà presque finie, on est un peu en retard. On vous passe un extrait qui aborde justement les manières d'abolir le pénal. À tout de suite.
Je vous ai dit donc que le milieu français est un milieu donc voilà qui valorise en gros la voie insurrectionnaliste. Mais si on fait un panorama pas franco-français des voies de l'abolitionnisme, en fait il n'y a pas que cette voie-là. Il y a plusieurs façons de se dire on va arriver à l'abolition de la prison ou à l'abolition du système pénal. En gros, il y a des gens qui disent on va y arriver que en faisant la révolution. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas la révolution, ça fait plaisir de brûler des prisons. On n'est pas vraiment sûr que ce soit comme ça qu'il faut s'y prendre, mais bon, c'est toujours ça de pris, etc. Il y a des gens qui vont dire, non, mais la révolution, ça va permettre de changer, en gros, la définition du pénal. Donc, de ce que je vous disais au début, et donc qu'il y a plein d'actes, vous voyez, qui ne vaudront plus la peine d'être poursuivis. Ou alors, avec la nouvelle société, alors on la qualifie comme on veut, communiste, anarchiste, anarcho-anarchiste, etc., il y aura beaucoup moins de situations problématiques. Hein. Il y aura une distribution des richesses, il y aura l'égalité entre les hommes et les femmes, on sera libérés dans nos têtes, du coup il n'y aura plus de viols, etc. Moi, j'y crois pas, hein, mais bon, vous voyez, c'est ce genre de raisonnement que, en gros, la nouvelle. Voilà, on a une nouvelle société, donc ça apporte en gros la paix entre les humains. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a du social, il y a des normes. Et du coup, il y a forcément des déviances. Et donc moi, je fais partie des gens qui pensent que voilà, même la révolution, si ça nous fait avoir des rapports plus, je sais pas, plus sincères, prévenants, etc., les uns avec les autres. Je ne pense pas qu'on en aura fini avec les déviances. Hein, voilà. Du coup, peut-être que des choses qui aujourd'hui nous paraissent totalement minimes deviendront des situations qui nous apparaîtront extrêmement problématiques. Bon, du coup, ça c'est en gros, il y a cette première voie autour d'une pensée révolutionnaire. Mais il y a aussi des abolitionnistes, qu'on pourrait dire réformistes, qui disent en gros, on pourrait abolir le pénal et la prison en gardant en gros le fonctionnement, le reste du fonctionnement économique. Alors après, ça prend plusieurs noms. On peut parler de décarcérisation. Donc l'idée que on va trouver des mesures alternatives à l'incarcération. Voilà, un mouvement qui serait un mouvement lent. Voilà. Il y a des personnes qui disent qu'il faudrait abolir le pénal et qu'on fasse plus que de la justice civile. En gros, que les gens gèrent les problèmes entre eux, avec l'aide de professionnels ou de semi-professionnels, etc. Mais du coup, voilà, abolition du pénal. Ce courant-là, c'est un courant qui a pu être assez fort, par exemple, je dirais entre les années 60-80. Il est totalement maintenant en perte de vitesse, mais dans la recherche anglo-saxonne, il y a pas mal de chercheurs qui sont sur des positions comme ça, hors chose qui n'existe pas du tout en France. Alors, c'est plus tellement à la mode ces idées-là, sauf que les moyens technologiques nous peuvent rendre assez concret ce genre de perspective. Hein, la vidéosurveillance, la géolocalisation, etc. Donc, c'est une réflexion à avoir lorsque on est militant anticarcéral ou abolitionniste, de se dire finalement, est-ce qu'on est en train de lutter contre juste l'enfermement? Mais c'est pour ça que j'avais apporté la brochure La prison à la maison. En même temps, le bracelet électronique et ses autres variables, en tout cas, je fais partie des gens pour qui c'est et là c'est la citation, une citation de Foucault, c'est contrôler mieux, c'est contrôler, vous voyez, ça c'est pas forcément, enfin on s'est pas débarrassé du pénal, c'est juste en fait les modalités du pénal qui ont changé.
Voilà, on est de retour. Il reste une minute chrono, même pas, je ne sais pas combien de temps il reste, en fait, non.
Très peu de temps.
Donc voilà, finalement, est-ce possible d'abolir le pénal? Est-ce que c'est viable en tant que... Est-ce que c'est viable en tant que féministe de ne pas adhérer aux valeurs des luttes anticarcérales? Est-ce que, à l'inverse, est-ce que c'est viable en tant que féministe de ne pas avoir recours au pénal pour prévenir la violence de genre, comme les agressions sexuelles et compagnie? Des questions que je laisse en suspens, et puis on se revoit dans 2 semaines.
Ciao!
À bientôt!
Protect the ocean.